La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Viry Châtillon, Sucy-en-Brie. Coup d'envoi 2h. On gagne 6-0, je mets les 6 buts.
J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez.
J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR. Mais la VAR ne fonctionnait pas. Et elle s'est remis à fonctionner juste après. Bizarre.
Dernier mot, Fabregas. J'ai aucune info. Vous devez savoir.
Ah, je l'ai eu tout à l'heure, il allait bien. Il était chez lui. Donc voilà.
Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre. Mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Mais il faut du temps.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After sur RMC, 21h02 avec Kevin Diaz, Jimmy Brown, Walid Déjarchour et notre invité Claudio Cacciapa. Je ne l'ai pas dit aussi, mais demi-finaliste de Ligue des Champions, bien sûr, avec l'Olympique Lyonnais. 4 sélections avec le Brésil.
Ouais, c'est ça.
C'est quel match, tu te rappelles un peu?
Ouf. Déjà une Coupe de Confédération.
Confédération, eh oui.
Ouais, Japon-Corée, je pense. En plus, on a perdu la demi-finale pour l'équipe de France. Et après, les autres, le Pérou, je pense. Mais des autres,
mon grand souvenir.
Tu me rappelles cette confédération parce qu'il y avait un joueur devant brésilien qui s'appelait Washington.
Oui, bien sûr.
Et je me disais, ça allait être un crack, etc., quand j'étais petit. Et derrière, ça a fait grand chose.
Flop.
Au Brésil, oui.
D'accord.
Au Brésil,
je me rappelle qu'il avait le 21 Washington.
Il a marqué pas mal de buts.
Ouais.
Alors, on va parler dans un instant de l'Olympique de Marseille. Tiens, quelques infos à vous donner concernant le PSG, adversaire de Lyon samedi soir, pour vous dire que Kylian Mbappé est bien dans le groupe du PSG pour la finale. Ousmane Dembélé aussi. Mbappé qui aujourd'hui a rappelé son envie de faire les JO à Paris, mais qui se rangera derrière la décision de son futur club, bien sûr, le Real Madrid. Puis autre info. Info signé Fabrice Hawkins, d'RMC Sport. Le PSG accélère dans le dossier Lenny Yoro. Olivier Létang, le patron de Dulosc, parlait d'une indemnité proche de 100 millions d'euros encore récemment. Somme extravagante à un an du terme de son contrat. Un transfert pourrait se concrétiser autour de 60 millions d'euros, peut-être avec bonus, voire un peu moins. Discussions en tout cas se poursuivent actuellement, c'est important, entre Paris et les propriétaires, les dirigeants lillois. Le PSG croit vraiment en ses chances. Je rappelle aussi que le Real Madrid est sur les rangs de Lenny Yoro, mais le Real n'est pas prêt à surpayer.
Ça va se régler ça avec Georges.
Tu crois?
Oui.
Un certain Georges? Un Georges. Georges C?
Non, Georges M,
bien sûr, Mendes.
Et LEC.
Et elle, voilà, c'est ça.
Ouais. Mais oui, je suis optimiste. Tu disais, ils sont bien placés. Ils sont pas bien placés avec Lille, je pense qu'ils sont bien placés.
Ton regard sur les Niro,
avec la bonne personne.
La défense centrale comme toi, Claudio.
Surdoué. Il a entendu le prix, Claudio. Il s'est dit, j'aurais dû jouer 10 ans plus tard.
100 millions, ça fait beaucoup quand même. Je pense que ça fait beaucoup.
A priori, ce sera plus 60, quoi, tu vois, avec des bonus. Surdoué, les Niro.
Ouais, c'est un bon joueur.
Moi, j'ai l'impression. T'attends de voir quand même.
Ouais, je pense.
Ouais. Après, pour les Lenny Yoro, quand même, si t'as le Real Madrid qui tape à la porte, au vu de la vieillesse, quand même, de certains, notamment, en défense, où il va quand même se libérer des places dans les prochains mois, dans les prochaines années, et l'armada qu'ils sont en train de construire avec ce stade extraordinaire, pas pour manquer de respect au PSG, qui est aussi une belle étape dans sa carrière, mais, faire une Raphaël Varane, en venant du nord de la France et en restant 10 ans au Real, je pense que, Ça pourrait quand même être une belle option.
Après, je pense qu'il peut aller au Real aussi dans 2 ans. Il est très très jeune. Mmh. On l'oublie. Il
est 18 ans à Paris pour sortir, c'est chaud.
Ah, qu'il aime. Oui, après, oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai.
Même si tu fais 5 ans à Paris, tu pars avant 25 ans au Real, tu peux encore aller faire tes 10 ans derrière.
Là, au PSG, vu le secteur défensif que tu as, Kimpembe, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir.
Ça reste un droitier, donc là, tu as Marquinhos quand même.
Oui, mais après, Marquinhos, on a vu que sur certains matchs, il pouvait se décaler. Moi, je pense que tu vas avoir beaucoup de minutes l'année prochaine si tu viens au PSG. Et pour le PSG, ça reste quand même un très très bon coup que tu fais.
Ah, mais ça, pour le PSG, c'est un excellent.
À 17 ans, moi j'aime bien de récupérer un peu les joueurs français qui pourraient.
Tu connais les garder chez nous aussi.
Ouais,
quoi.
Qui pourraient aller ailleurs et qui dans 3 ans coûteront 150 millions d'euros.
Il y en a quelques-uns. T'as Désiré Doué, t'as Lenny Yoro. Si le PSG pouvait se positionner sur ce genre de joueurs, ce serait pas mal.
Il faudra le saupoudrer d'expérience et de joueurs aussi. De grand talent qui pourraient être déjà prêts l'an prochain.
Bon, voilà pour le Niro. Plus d'infos sur le site rmcsport.fr. Alors, Marseille. Qui peut prendre la tête de l'équipe la saison prochaine? Priorité du moment, bien sûr, trouver un entraîneur avant de dessiner un mercato, un effectif. Sur la liste, du duo Longoria-Benatia, Paolo Fonseca, on le sait, Sergio Contessao, Franck Hez. Il y a le nom de Raphaël Palladino qui circule aussi, entraîneur de Monza, 12e de Serie A. Alors, selon nos infos, malgré ce que vous avez pu lire ou entendre, la direction de l'OM n'a pas contacté encore Sergio Contessao ou Franck Hez. En tout cas, toi, Kevin, tu penses que Franck Hez et l'OM pourrait être le mariage parfait. Jingle Kevin Diaz.
Le football, c'est quand même, il y a cette fameuse phrase, là je l'ai pas en tête, mais j'adore ce jingle. Ça, c'est quand tu vois que tu vas rater ta passe et que finalement tu gardes le ballon.
Ouais. Enfin, on l'a vu,
le mouvement, il est pas beau quand même, quoi. Ouais. Là. C'est-à-dire que tu dois faire une super passe décisive. Le mec, il fait l'appel, toi tu gardes le ballon, c'est plus ouais, ça.
Normalement, ça siffle dans.
Non, mais là, ça siffle. C'est le changement aussi.
C'est la passe que tu devais donner.
C'est là où il faut avoir l'esprit costaud.
C'est là
où il
faut comprendre le foot.
Le mec, il est fort.
Et là, t'envoies un calma, tu vois, comme Cristiano.
Ah ouais, d'accord, ok. Il est que 21h06, messieurs, dames.
Il est bon.
Et il nous reste 55 minutes.
Ah, tu trouves bon, Kevin Diaz? Il est bon, ta vie se démonte pas.
Il nous reste 55 minutes, les gars.
Kevin, pourquoi Franck Hez est pour toi l'homme qu'il faudrait à l'Olympique de Marseille?
Bah écoute, j'entends des noms déjà qui sont très intéressants, que ce soit Fonseca, que ce soit Serge Concessant, bien sûr c'est des entraîneurs qui ont eu de vraiment des belles carrières, en tout cas sur les 5 dernières années pour Concessant et pour Fonseca, c'est top. Par contre, vous parliez de joueurs français pour le Paris Saint-Germain, ce qui est bien sûr une belle option avec Lignoro, mais un entraîneur français comme Franck Hez, que ce soit pour lui, pourquoi je trouve que c'est le match parfait? Parce que ce soit pour la carrière de Franck Hez, qui après un excellent travail à Lens, pourrait avoir une étape. On avait parlé de lui dans une shortlist pour Liverpool. Bah, finalement, ils ont pris un entraîneur de Feyenoord. C'est pas non plus, il aurait pu vraiment prétendre à le faire. Mais après faire, je sais pas moi, 3 ans à l'OM, comme apparemment Mehdi Bedassia et la direction de l'OM veulent laisser le temps à un entraîneur de travailler, je pense que pour Franck Hez dans sa carrière, c'est extraordinaire de passer à l'Olympique de Marseille. Même si Lens est un beau club, l'OM c'est quand même le niveau au-dessus en termes de médias, en termes de pression, en termes d'histoire du club. Et pour l'Olympique de Marseille, avoir un entraîneur qui connaît parfaitement la Ligue 1, qui aujourd'hui a travaillé dans un des meilleurs clubs français en termes de structure, en termes d'organisation, en tout cas jusqu'à cet été, Lens est quand même un exemple pour tous les clubs. Rapport qualité-prix, mercato, transfert, qualité de jeu, état d'esprit sur le terrain. Je pense que pour l'Olympique de Marseille, choisir un entraîneur français comme Franck Hez, qui en plus est un entraîneur moderne, qui essaye de produire un jeu attrayant, un jeu avec un pressing agressif. En gros, voilà tout ce que demande aujourd'hui un entraîneur, et c'est pas pour rien que je répète qu'il est quand même sur la liste de Liverpool, même s'il n'a pas été choisi. Donc je pense que pour les deux parties, ça peut être le match idéal, parce que ce sera peut-être difficile d'aller chercher Fonseca qui est sur les tablettes notamment de l'AC Milan, ou Concessant qui pourrait aller pourquoi pas en Première Ligue ou ailleurs. Je pense que Franck Hez, c'est réaliste pour l'OM, c'est un entraîneur qui a déjà battu un truc énorme en Ligue 1 avec Lens. Et s'il pouvait le faire avec l'OM, ce serait gagnant-gagnant.
Mais je veux d'accord, supporter de l'Olympique de Marseille, appelez-nous au 32-16. Walid.
Non, mais moi je suis globalement d'accord. On a beaucoup de sympathie pour Franck Hez. Déjà, l'homme, ce qu'il dégage, et puis surtout par son travail qu'il a fait à Lens, et puis même son idée sur le foot. Après, le gros problème, c'est que est-ce que la pression marseillaise ne va pas le gober, quoi, ne va pas englober tout ça. Et ça, ça reste pour moi une question qui est fondamental. Après, comme l'a dit Kevin, s'il a une direction très très forte qui va lui donner de la stabilité, ça peut aussi être un bon point. Je sais pas si on en parlera sur les prochains jours ou dans les prochaines semaines avec ce qui se passe à Lens, notamment, où il y a beaucoup de remue-ménage, des décisions que moi je n'arrive pas trop à comprendre. Remue-ménage.
Ça passe.
Je l'aurai en jingle. Mais il faudra voir l'avenir de Franck Hez, s'il reste ou non à Lens, et ça peut être une vraie bonne possibilité pour l'OM. Même si en termes d'expérience, par exemple un nom comme Fonseca, moi je trouve que parce que Fonseca ça va commencer à être compliqué vu la tournure que prend son nom à l'AC Milan.
Attention, quand c'est Sao, c'est pas du tout le même football.
Oui, c'est pas du tout le même football, mais je trouve qu'en termes d'expérience, en termes de compétitivité, ce qu'il a réussi à faire à Porto,
pression supportée,
notamment, et surtout sur le côté pression, il donne quand même un peu plus de garantie que Francaise. Mais oui, Francaise.
Tu te demandes s'il a la personnalité Francaise.
Après, pas très galé. Peut-être qu'avec le ballon, il a un 4-4-2 qui est assez basique. Mais je trouve quand même, quand je vois Porto, moi, en Europe, notamment, c'est quand même une équipe qui va chercher haut, qui a un gros pressing. Oui, et voilà.
Bon coach.
Et globalement, l'OM. Et puis même, moi, je sais que les dirigeants veulent retrouver une vraie, pas le mot grinta, mais une rigueur dans les performances, une attitude irréprochable. Je trouve que Conte Sao et peut être un entraîneur qui t'apporte,
plus. Par rapport à ce que tu disais, le match parfait. Moi, j'adore Francaise et je pense que pour Francaise, ce serait exceptionnel. Maintenant, pour Marseille, comme disait Walid, le contexte il est particulier. Alors, il y a des discours qu'on fait avant la saison de dire on veut quelqu'un sur 3 ans, on veut la stabilité. On sait comment ça se passe à Marseille. Si tu fais 3-4 contre-performances, il faut un mec très costaud qui a l'habitude d'un contexte à très haute pression. Conte Sao, il a connu un contexte similaire à Porto, tu le sais bien, Kevin. C'est un club où voilà, il faut être tout le temps à fond, etc. Il a cette, tu sens qu'il a ce charisme, cette poigne. Moi, j'imagine tout à fait Conte Sao arriver sur le banc de l'OM dans un autre registre. Fonseca, tu le disais. Alors même Conte Sao est annoncé parfois aussi du côté de Milan. On va voir. Il va y avoir cette question-là aussi de les choix que vont faire les cadres européens, parce que malheureusement pour eux, les Marseillais seront pas le premier choix de ces coachs-là. Mais si tu arrives à faire Fonseca sur la dynamique qu'il a actuellement, la saison exceptionnelle qu'il a faite, les saisons exceptionnelles qu'il a faites à Lille, où il a réussi quand même avec peu de moyens. Il faut rappeler quand même, hein, il arrive à Lille où c'est une austérité, où tu as des casseroles, de l'air Lopez, etc. Il a fallu reconstruire. C'est un peu similaire à ce qui se passe à Marseille aujourd'hui. Il a été capable de le faire en plus en proposant un jeu attrayant. Que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, ce serait même si j'adore Francaise encore une fois et qu'il faut valoriser ce qu'il a fait à Lens.
Moi, je dis ça aussi parce que Fonseca, je pense que ça va être difficile de l'attirer.
Mais entre Conte Sao et Francaise, tu prends Conte Sao?
Bah ça dépend. Moi, Conte Sao, j'adore. Oui. J'adore la grinta. Il a un adjoint en plus français, Dembélé.
Il a connu la Ligue 1 avec Nantes où il avait fait un passage très
très bon.
Il a travaillé au Standard de Liège en Belgique. Il y a pas de problème. Conte Sao, c'est bien. Mais quand même, j'ai une petite préférence pour Francaise parce que footballistiquement, ce que propose Francaise, je pense que ça peut aussi très bien convenir au Vélodrome. Quand tu parles d'attitude des joueurs de Francaise, quand même, c'est assez irréprochable.
Oui, oui, oui. Après, est-ce qu'il va pouvoir le faire dans un vestiaire un peu plus compliqué, avec des plus gros salaires, avec des... Tu vois, là, tu dois gérer l'Iwaï à Lens. C'est un peu différent quand même à Marseille.
C'est plus un vestiaire non plus de constellation.
Par rapport à ce que dit Walid, je le gérerai à Lens. Quand il dit il marque pas pendant 5 matchs à Lens, c'est pas très grave. Si le même joueur, l'attaquant de Marseille, il marque pas pendant 5 matchs à Marseille, c'est la folie.
Mais c'est Claudio. Je pense que Francaise, je le connais parce qu'on a passé les diplômes ensemble. Je pense qu'il est prêt. La pression, tout ça, il est prêt. Si c'est lui que Marseille décide d'aller chercher, il est prêt. Moi, je le connais. Je l'ai tutoyé pendant un an, pendant la formation. Il est prêt. Il est prêt. Et le travail qu'il a fait à Lens, ça le démontre. Il a même pas besoin de parler. Ce qu'il a fait à Lens, aujourd'hui, pour moi, il est capable d'entraîner dans les plus grands clubs.
Donc, tu penses qu'il a le sang-froid pour, dans un contexte marseillais qui est beaucoup plus pressurisant, brûlant qu'à Lens, pour gérer ça au quotidien, quoi.
Il peut. Il est capable.
Mais moi j'ai envie d'y croire. Je dis pas que Francaise ne peut pas. Lens, ça reste.
On parle en rapport avec les autres noms qui sont annoncés.
Lens, c'est pas la même pression que Marseille, mais des gros supporters, une vraie ambiance. Donc il a quand même un contexte. Il est pas Louan Cuiseau, avec tout le respect que j'ai pour Louan Cuiseau. Mais la réalité, c'est que j'ai un petit point d'interrogation sur cet élément-là. Après, il faut savoir aussi, Nico, que moi je pense que l'Olympique de Marseille voudra un coach qui veut véritablement venir à l'Olympique de Marseille. Avec une vraie envie, pas qu'il soit le troisième, quatrième choix, vraiment, c'est le jeu de la chaise musicale, mais il reste une chaise.
S prend du poids, parce que je pense que S pour lui,
ça sera un super.
Pour lui, c'est pas un deuxième choix.
Oui, c'est pour ça que je vais dans ton sens sur un Paladino, sur un Francais, sur ce type de choix-là, parce que ce sera pas forcément un gros, hein, on sait pas. Moi, je trouve que Conte Sao, son expérience est très très bien, ce serait très très bien. Mais est-ce que Conte Sao, il va être présent, est-ce que là, il va montrer une attitude où je veux venir à Marseille.
5 ans qu'il joue la Ligue des Champions.
Voilà, je veux venir à Marseille. Est-ce qu'il va venir à reculons? Est-ce que dans les discussions, il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Donc ça va être intéressant à suivre. Mais en tout cas, dans cette shortlist là, moi, Francaise et Fonseca, c'est deux coachs qui me parlent.
On prolonge dans un instant, bien sûr, avec vous. 32-16, appelez-nous, supporters marseillais, pour nous dire quel est votre favori, celui que vous aimeriez voir prendre votre équipe la saison prochaine. Hein. Ça peut être un autre nom, là, la liste. C'est vrai qu'elle est, elle est intéressante, elle est pertinente. Hein. Mais dans les prochaines heures, un autre nom peut sortir du chapeau.
On n'a pas eu Johan Crochet sur Paladino qui nous raconte un peu.
Si l'info prend de l'épaisseur, ouais. On l'appellera, bien sûr.
Ouais.
Reste avec nous, c'est Génération After avec Claudio Cachapa, Jimmy Brown, Kevin Diaz et Walid Acharchou. On revient dans quelques secondes, hein, tout de suite.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de trois pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, évitez de grignoter.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Kevin Diaz, avec Jimmy Brown, Walid Acharchour et notre invité Claudio Cachapa, on parle du futur entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je sais que vous êtes nombreux sur le chat à commenter, à attendre avec impatience une annonce. Elle viendra peut-être dans les prochains jours. C'est évidemment le chantier prioritaire. Vous nous appelez d'ailleurs pour en parler au 32-16. Il y a une remarque intéressante de Monkey sur le chat YouTube qui dit: est-ce qui a été très en colère des sifflets envers Wally va entraîner Marseille? Il va devenir fou au Vélodrome.
C'est une possibilité, après. Moi, j'ai pas envie de...
Oui, mais il s'adressait plus au contexte. Enfin, je veux dire, Aize, il parlait de Bollaert. Après, tout ce que Lens avait fait de bien, ils reviennent de loin, les Lensois. Tu vois, je pense qu'il saura s'adapter aussi à ce contexte-là. Il sait que c'est plus brûlant au Vélodrome qu'à Bollaert. Quand ça ne va pas bien. Encore une fois, Lens est un public extraordinaire. Quand ça va bien. Et c'est peut-être moins hostile qu'à Marseille quand ça va un peu moins bien.
Mais c'est vrai que Francaise et Marseille, sur le papier, c'est excitant. C'est excitant.
Moi, j'ai tenté ça au Marseille, mais non, ça m'excite plus.
Ah non, mais moi, j'ai
tenté ça au Marseille, ça m'excite plus. Ah, mais bon, c'est vraiment l'alliance du feu et du feu.
Moi, les deux m'exciteraient. Mais même et Fonseca
aussi. Fonseca
OM aussi, ça m'exciterait. Ouais,
on va se retrouver avec un entraîneur yaourt nature, comme dirait Walid Acharchour.
Ouais, non, mais je sais pas.
Attendons de voir.
Ou Claudio, pourquoi pas? Claudio a ses diplômes aussi.
Ouais,
Claudio,
le Lyonnais comme ça à Marseille, tu pars
pas. Non, enfin, je peux pas.
Comment
un Lyonnais à Marseille, c'est pas possible. Voilà, je suis désolé, c'est pas possible.
Claudio, demain, on a posé la question à Bibé il y a un mois, il était
ça,
ici. C'est
bien
Bibé.
Mettre les gens dans l'instant.
Demain, Claudio, t'as un appel de Pablo Longoria. Claudio, on aimerait que tu prennes l'Olympique de Marseille. Tu réponds quoi?
Je vais.
Ah ben voilà, bien sûr.
Okay, j'ai envie de travailler, j'ai faim, je vais.
T'as un appel du nouveau propriétaire de Saint-Etienne, il te dit à un moment qu'on y
gagne. Gaz, qui t'appelle.
Je vais pas.
Ah, voilà.
Okay. Non, mais là, il peut pas, là les gars.
T'as plus faim, là?
Non.
Non.
J'ai assez mangé avant.
C'est magique, ça.
Bon, évidemment, quoi. Bon, on saura. C'est intéressant parce que ce sera la première étape pour ensuite dessiner les contours de l'effectif. On sait pas encore réellement ce qu'on veut faire à Marseille. J'imagine. J'espère presque pour les supporters marseillais qu'on attend d'avoir l'entraîneur pour savoir le profil des joueurs qu'on va recruter.
Oui, moi je pense qu'ils veulent veulent pas se précipiter non plus, hein, sur le choix de l'entraîneur.
Ouais, moi je te dis que toi tu disais excité par l'entraîneur, mais on fait bien sûr, tu vois, petit teasing, on fait bien sûr l'after tout l'été. Mais l'été de l'Olympique de Marseille, ça va être quelque chose.
Soit
il va rien se passer et les supporters vont péter un câble parce qu'il se passe rien. Soit il va avoir beaucoup de changements, mais il va falloir voir parce que là, j'avais dit il y a quelques semaines, mais là le virage pour Pablo Longoria.
Et puis même si t'as pas de barrage.
Il est serré.
Pardon, même si t'as pas de barrage, il faut faire attention, hein, on va prendre du temps, etc. Non. La saison, elle se prépare vite. Il faut vite faire des choix pour avoir les joueurs.
Il faut pas se précipiter non plus.
Si tu mets trop de temps, tu peux le traîner aussi en début de saison. Et quand ça part mal à Marseille, ça peut être plus compliqué qu'ailleurs.
Mais quand tu dis se précipiter,
le mercato, c'est maintenant.
Oui, on parle pas de
dans les 15 prochains jours. Ça sera réglé, tu vois. Mais je te dis pas qu'il va arriver en
début juillet, ce serait compliqué.
En août, quoi. Mais même pour l'effectif, on a souvent critiqué le fait qu'il y avait beaucoup de changements. Et que ça arrivait tard. Là, il va en avoir du changement vu la gueule de la saison et puis surtout même les situations contractuelles de beaucoup de joueurs, les salaires aussi, les gros salaires de beaucoup de joueurs qui n'ont pas été incroyables cette saison.
À minima, 50% de l'effectif qui doit être modifié.
Ah oui, je pense. Voilà. Ouais, je pense.
Loïc est avec nous, 32-16, supporter de l'OM. Salut Loïc. Loïc, es-tu là?
Oui.
Bonsoir, bienvenue dans Génération After.
Alors, bonsoir à tous.
Bon, tu connais la liste, hein, des potentiels sur le banc de l'OM. Hein, d'autres peuvent se rajouter, hein, dans cette liste. Toi, tu veux qui?
Habib Bey, pour la simple et unique bonne raison, enfin, voire deux même. La première, ce qui serait bien, on n'a pas de Coupe d'Europe. Donc, ce qui est bien, là, cette année, il faut bâtir. On sait qu'on va avoir un turnover encore d'à peu près 50% de l'effectif. Donc, il faut, à mon avis, nommer un entraîneur dans les dans le mois de courant du mois de juin, maximum juillet, pour que lui choisisse ses joueurs, pour éviter de répéter l'embroglio qu'il y a eu avec l'ami Marcelino l'année dernière, qui est arrivé à la début août, je crois, ou au 10 août, et qui a fait venir des joueurs qui lui correspondaient à lui. Après, on a vu le flop que ça a été, mais ça a été un pari. Là, aujourd'hui, il y a des entraîneurs, bien sûr. Francaise, c'est sexy et attrayant parce qu'il fait bien jouer ses équipes. Mais ça ne sert à rien d'aller chercher des entraîneurs niveau Champions League parce qu'ils vont nous demander beaucoup d'argent en termes de salaire, ce qui est normal. Hein. Tu payes la qualité du gars. Que là, tu as un mec qui est en train d'apprendre, qui continue sa formation et qui connaît déjà le contexte marseillais. Donc, Habib, why not?
Il faut de l'expérience absolument sur le banc à Marseille, Claudio. Même, j'ai même plus des titres, des années et des années au plus haut niveau.
Là, en parlant d'Habib, je pense qu'il a prouvé qu'il est prêt aussi. Et après, Habib, c'est plus facile parce qu'il connaît la maison. Il connaît comment ça se passe à Marseille. Et je pense que après l'expérience, elle est importante aussi. Mais moi, je vois aussi Habib. Pour moi, il y a...
Pas trop tôt, pas forcément.
Non, pas forcément. Après, dans le foot, pour moi, il n'y a pas de vérité.
Exactement.
Tu peux mettre Habib et ça marche.
Bien sûr.
Peut marcher et ça peut pas marcher. Ou tu peux mettre Conceição et bien ça sûr. Peut marcher ou pas marcher.
Exactement.
Dans le foot, il n'y a pas de vérité.
Oui, mais il faut réduire la marge d'erreur possible, ouais,
mais,
tu vois.
Oui.
Pour avoir un maximum de garantie, tu vois.
Il faut quand même aussi laisser place à la nouveauté. C'est-à-dire que sinon, il n'y a jamais un entraîneur qui va pouvoir, ni Francaise ne pourra entraîner l'OM parce qu'il n'aura pas entraîné avant. Et comment il va entraîner Liverpool s'il n'a pas entraîné l'OM avant, etc., etc. Donc, Habib Bey, comme le dit notre auditeur, on n'en a pas parlé parce que c'était pas le sujet, mais moi j'ai aucun problème. On connaît aujourd'hui quand même le niveau qu'il faut pour être entraîneur performant au niveau national, qui est un niveau professionnel en France, hein, où tout le monde est professionnel. Certes, c'est pas de la Ligue 1, il y a pas la même.
Mais qui est un championnat qui est méprisé en France.
Il y a peut-être pas autant de médias et tout, mais quand tu fais quand même le parcours qu'il fait au Red Star, même s'il a un beau budget, même si il y a beaucoup de pression justement du fait de son métier de consultant. Moi, si demain il est nommé à la tête de l'Olympique de Marseille, mais je vais en fait, je suis comme Claudio, notre auditeur. Je te dis pourquoi pas. Je peux pas du tout dire, ouais, mais attends, c'est pas parce qu'il est meilleur entraîneur des nationales qu'il peut. Mais dans ce cas-là, Xavi Alonso, il est jamais entraîneur.
Thiago Motta, il prend pas d'équipe à Bologne.
Voilà. Non, mais il y a un moment, les gars, ils sont performants. Les entraîneurs, aujourd'hui, quand
mais c'est l'exemple, Thiago Motta, il va à Bologne avant d'aller à la Juve. Il va aller à la Juve, mais il va y avoir une étape intermédiaire.
Aujourd'hui, les opportunités. Zidane prend pas le Real aussi.
Abibay.
Comment ça? Non, mais Zidane, il fait Castilla, Real.
D'accord, ok. Abibay, il a fait
Real.
C'est ce que je vous dis.
Il a fait 3 ans.
Habib, c'est son passé de joueur à Marseille qui entre dans la discussion.
Le problème avec Habib,
sinon tu dis Grégory Poirier qui est à Martigues, pourquoi pas l'OM?
Non, mais parce qu'en fait le débat.
En fait, pourquoi pas?
Oui, non, mais ok, non, dans ce cas-là, pourquoi pas partout? Mais je veux te dire, c'est qu'il y a des étapes intermédiaires.
Aujourd'hui, en fait, Jimmy, le débat avec Habib, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se. On découvre que les anciens joueurs qui ont fait 500 matchs au très très haut niveau ne partent pas sur la même ligne
évidemment
qu'un entraîneur.
Mais on dit la même chose. Oui, oui.
C'est comme ça, c'est le football.
Déjà, ils peuvent passer les diplômes plus facilement.
Thiago Motta, tous les entraîneurs des U19 au Paris Saint-Germain, ils n'ont pas eu la même hype que Thiago Motta derrière en Italie. Ouais. Mais c'est parce que Thiago Motta, même avant les U19, il avait déjà des opportunités parce que son passé de joueur, il est incroyable.
Et puis parce qu'il était
numéro. Voilà, tous. Donc, à un moment donné, moi, Habib, je l'ai toujours dit, on l'a expliqué. Pour moi, il doit être dans une shortlist 6e ou 7e à l'Olympique de Marseille. Et moi, je voudrais pour Habib Bey qu'il aille dans un projet intermédiaire en Ligue 1, dans un club.
Je pense que ça lui correspondrait.
Mais demain, comme il vient de le dire, Kevin, Pierre Sage, il avait quoi comme expérience à Lyon? C'est Will Steele à Reims, il avait quoi? Régis Lebris à Lorient, c'était un formateur.
Alors attention, parce que Régis Lebris, il faut bien, parce que souvent on le dit, et je pense qu'il faut il faut vraiment insister là-dessus. Régis Lebris, Will Steele, notre ami Francaise. C'est des entraîneurs, ça fait plus de 10 ans
qu'ils
sont entraîneurs.
Mais
attention.
C'est des formateurs, des éducateurs.
Peu importe, quand t'es un formateur, tu es un entraîneur.
Oui, d'accord.
Donc, tu as peut-être pas l'expérience.
Mais les questions du
vestiaire. Devant 50 000
personnes.
Voilà,
c'est ça que je dis.
Devant un parterre de médias.
Il y a toujours des inconnus.
Mais peu importe.
C'est une grosse différence, ça,
les
amis.
Entraîner, c'est entraîner. Et après, il y a le contexte. Est-ce que tu as été un ancien joueur dans tel club? Tu seras facilité parce que, comme disait Claudio, tu connais le contexte. On t'appréciera plus vite. T'auras un peu plus de crédit. Mais je te le dis.
Ce que je veux dire.
Le crédit d'un entraîneur, il dure une semaine. Hein. Non, il dure une semaine auprès des joueurs.
Pour tout
il dure
le monde. Deux...
Voilà, pour tout le monde.
Ah, oui, c'est un joueur ou pas.
Ah, c'est un joueur ou pas. Si t'es pas bon, t'es pas bon. Si t'es bon, t'es bon.
Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours eu ces questionnements. C'est-à-dire que même ceux qui étaient des grands formateurs et des éducateurs comme Franquès, quand il arrive, il est parachuté en Ligue 2 à Lens. Je pense qu'à Lens, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi Franquès? Pourquoi on n'a pas été chercher un autre coach, un routard de Ligue 2, etc. Et Franquès, 5 ans après, il les a emmenés en Ligue des Champions. Donc, à partir du moment où tu y es, si demain Bibey il va à l'Olympique de Marseille, moi je suis persuadé qu'il a les qualités pour coacher. Maintenant, aujourd'hui, dans une grille, si je suis Mehdi Benatia ou si je suis Pablo Longoria, eh ben, j'ai 3-4 mecs devant Bibey par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à la dynamique. Tu vois, c'est deux choses complètement différentes.
C'est bon?
C'est bon.
Je crois que tu voulais parler encore.
Non, on est d'accord.
C'est terminé sur Marseille, les gars. Bien sûr, on va suivre ça toute la semaine prochaine aussi, avec Flo Germain et ses infos à retrouver sur le site rmsport.fr. Merci, Loïc, d'avoir fait le 32-16. Dans un instant, tiens, on va se faire un petit plaisir, nostalgie. L'OL de Claudio Cassapa. On va te demander quel était le joueur que tu appréciais le plus à l'entraînement, celui qui t'a impressionné le plus en match, l'équipe qui t'a posé le plus de problèmes, l'adversaire aussi. Et on va refaire ta carrière et parler de ton avenir aussi, surtout.
Tiens, il y a un autre vas-y. Exemple sur YouTube, Genesio.
Oui, Genesio pareil.
Genesio, il arrive comment à l'OL? Dans le staff, hein, hop, numéro 1 aujourd'hui. Et il a fait Rennes, il va faire peut-être Nice ou Lille.
Quoi le sujet? C'est de dire que les entraîneurs démarrent un jour. Oui,
il démarre sans expérience.
Comme l'a dit Claudio, c'est plus favorable quand tu démarres dans le club où tu es formateur aussi. Quoi.
Exactement.
Tu gagnes du temps, tu connais l'environnement.
Tu as été joueur,
tu connais
les
barres.
Il a été joueur à Marseille, Bibi.
Oui, mais c'était il y a un moment déjà, quand même aussi. Tu vois? Ça remonte. Il était pas dans le club aujourd'hui. Non, quoi, tu vois,
l'aura qu'il a auprès des supporters, etc. Bien sûr que
c'est autre chose.
Un avantage pour lui.
C'est très versatile, ça.
Oui, mais au départ, il aura un a priori positif. S'il va à Marseille, il aura un a priori positif.
Ça dure une semaine.
C'est ça dure une semaine, ça.
Habib ou un autre, c'est la même chose.
Peu importe.
Si ça gagne, ça va très bien. Si ça perd.
Exactement. Dans un instant, donc, on parle de la carrière de Claudio et le quiz de l'after à 21h45. Hein. Vous envoyez quiz au 732-16 pour participer et tenter de gagner un bomber shot. À tout de suite sur RMC.
Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Jimmy Brown, avec Walid Acherchour, Kevin Diaz et notre invité Claudio Cassapa, qui est avec nous jusqu'à 22h. L'after prendra le relais, bien sûr, ce soir, hein, comme tous les soirs avec Gilbert Daniel, à partir de 22h. Alors, Claudio est avec nous, on va se faire un petit plaisir parce que enfin, moi, c'est ma génération, hein, le début des années 2000, totalement à fond. Pas dire que j'étais supporter de Lyon, mais en Ligue des Champions, c'était extraordinaire. C'est le rendez-vous habituel. C'était en clair, c'était gratuit à l'époque, et on pouvait voir l'OL s'installer au sommet de l'Europe. Tiens, d'abord j'accueille un homme qui t'a beaucoup interrogé, je pense, à Lyon, un journaliste lyonnais qui travaille à RMC. Tu connais son nom?
Edouard
G est avec nous. Salut Edouard.
Salut Nico, tu m'as découvert.
C'est bien, ça veut dire que t'as bossé un peu quand même.
Là, elle était facile.
Salut Loulou. Elle était facile, celle-là. J'ai fait trop d'indices, Claudio.
Ouais, t'as fait.
Bon,
salut Edouard. Grand plaisir d'être avec toi sur l'antenne.
Bon, on en parle encore beaucoup, Claudio, à Lyon. Ça reste une légende.
Oui, bah à chaque fois, désolé Claudio, mais à chaque fois qu'on parle de Claudio, ce fameux février 2001, quand on voit arriver un Brésilien au cœur de l'hiver avec un short trop grand.
Hein? Ça, c'était demandé,
raconte-nous ça.
Hein? Ça, c'était demandé.
Ouais.
J'avais demandé un XL.
Pourquoi?
Parce que j'ai aimé porter des choses...
Des shorts très larges.
Ouais.
Ça faisait peur aux attaquants. Il y avait l'impression qu'il y avait des grosses cuisses. J'ai déjà fait ça.
C'est pas mal ça.
T'es arrivé de l'Atlético Mineiro, hein, c'est ça. Hein.
C'est ça, ouais.
T'as fait 4 saisons là-bas. Et voilà, pour 6 mois. Exactement. Bon, tu peux jouer avec nous aussi. On va poser des questions un peu rapido à Claudio. Claudio, quelle est ta plus grande émotion au football, justement? Tout à l'heure, tu disais, oui, il y a 2001, le but décisif en finale de Coupe de la Ligue. Lyon n'avait plus rien gagné depuis 1973. Toi, très rapidement, t'as un premier trophée avec l'OL. Quelle est ta plus grande émotion?
Écoutez, c'est vrai que le but de la Coupe de la Ligue, ça m'a permis de rester 6 ans et demi après. Mais je pense que le premier titre, ça restera marqué à vie.
2002.
Ouais, parce que Lyon n'a jamais été champion. Et ce jour-là, on arrive à gagner avec une victoire convaincante, 3-1. Et après, j'ai les images là, je vois les images.
Tu peux rappeler le contexte, hein, c'est Lens qui est deuxième, c'est la finale pour le titre, c'était un truc rêvé quoi, c'était un scénario rêvé à l'époque.
Oui, ouais, nous il fallait absolument gagner le match. Lens y jouait pour le match nul aussi. Nous il fallait absolument. Et là je vois les supporters après le match tous sur le terrain. Cette image pour moi c'est gravé à vie. Et pour moi, le premier titre, ça restera pour toujours.
Il y en a 5.
Tu sais qui c'est? Vas-y, Edouard. Tu sais qui est dans cette foule sur le terrain? Il m'en a parlé cette semaine.
Qui?
Un joueur actuel de l'OL.
Cacré?
Ryan Cherki?
Non.
Alex Lacazette.
Lacazette.
Qui est champion du monde.
Tolisso.
Tolisso. Ah ouais. Et il nous expliquait que justement, il avait l'envie de. Alors, il y aura pas d'envahissement de terrain de Gerland ou du grand stade au Groupama, mais de revivre parce qu'il était avec son papa Vincent. Il était sur cette pelouse en tant que supporter et dans l'interview qu'il nous a accordé mardi là, et, il me dit ben voilà, j'aimerais bien revivre ça, mais revivre en tant qu'acteur, et il aimerait aller là où tu allais souvent, mon cher Claudio, puisque t'as connu tout ce qui se derrière, au balcon de l'hôtel de ville. Donc il en a des frissons de cet envahissement de terrain dont tu viens de parler.
Et moi aussi, j'ai des frissons là. Parce que c'est tellement beau. Parce que il faut savoir que nous, on revenait de loin. À un moment donné, je pense, Lens, ils ont 11 points d'avance. Et on arrive à ces joueurs pour la finale, pour jouer la finale. Mais il y a quelque chose que moi, j'étais sûr qu'on allait être champion. J'étais sûr.
Pourquoi?
Parce que il y avait quelque chose dans moi qui disait c'est obligé. C'est obligé, c'est tellement beau, c'est obligé de bien finir la saison avec une victoire et avec le titre à fêter avec toutes les supporters sur le terrain, et c'était le cas. Et pour moi, je le répète, parce que c'est un joueur inoubliable.
Vous étiez spécialiste des remontadas, parce qu'en 2004, Monaco avait aussi 10 points d'avance. À un moment donné, ils sont écroulés et vous avez récupéré le titre de champion.
Ouais, c'était.
Vous aviez cette force-là, mais dans c'était l'esprit,
j'allais dire, finaux. C'était notre force. On démarrait des fois pas au top, pas très bien, mais on avait cette force dans la continuité de rester derrière et après, à un moment donné, de pouvoir passer devant. Et c'était le cas contre Lens et Monaco aussi.
Mais Claudio, tu disais en 2002, j'étais sûr qu'on allait le faire. Est-ce que tu imaginais que ça allait s'enchaîner comme ça, que enfin la domination derrière, vous enchaînez sept titres, c'est énorme ce que vous avez fait. Est-ce que tu pensais le premier titre, peut-être oui, tu le voyais venir, mais est-ce que tu t'étais sûr que ça allait s'enchaîner comme ça s'est enchaîné derrière?
Non, pas du tout.
Tu peux pas prévoir ça.
Ah non, tu peux pas prévoir ça. Après, c'est vrai que chaque saison après, l'équipe, elle était encore plus forte.
Et oui.
Ça veut dire que le président Las, et d'ailleurs petite parenthèse pour moi le meilleur président de France. Tous les ans, il allait prendre 1, 2, 3 mecs et l'équipe, elle était encore plus forte.
Oui.
À chaque année, chaque saison, c'était comme ça.
C'est laquelle l'équipe qui a été la plus forte?
Ah, c'est dur, hein, c'est pas facile parce que. Mais je pense que l'équipe, je pense que c'est la deuxième année de Gérard Houllier.
Et si
2006, je 2006, pense, ouais. C'est l'équipe.
Oui, c'est ça, c'est Essien.
Non, c'est avec Thiago.
Non, c'est avec Thiago, celle-là.
Là, c'est. Ouais, c'est là, regarder. C'était avec Thiago.
Je crois
ouais.
Que c'était avec Thiago.
Essien, il n'était pas là.
Ouais.
Nous, Thiago, il nous a fait presque oublier Essien, même si oublier Essien, c'était difficile, compliqué. Mais Thiago, c'était aussi un drôle de joie.
Et devant, c'était qui cette année-là?
Malouda, Gougou
et Viltor.
Fred
aussi était là, ouais.
C'est ça. Bon, le joueur, bon, beaucoup répondaient sur le chat. Hein, faut qu'il parle de Juninho absolument, Claudio. Quoi. Est-ce que c'était le joueur le plus majeur? Oui, le plus impressionnant que tu as vu à l'OL.
Pour moi, c'était le plus décisif.
Décisif.
Ah
c'est
oui.
Le terme, bien sûr.
Oui. Ah oui, c'était lui le plus décisif. On savait qu'à tout moment, il pouvait débloquer quelque chose. même en étant 0-0 à la 90e ou 92e, coup franc, tu pouvais rêver.
Que sur coup franc ou même dans le jeu?
Non, même dans le jeu, lui, il était très intéressant parce que même dans le jeu, les gens, ils pensaient que Juning, c'était qu'un tireur de coup franc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était un drôle de joueur, très intelligent. Et je pense que, comme j'ai dit, 0-0 jusqu'à 90e, 12e, il fallait espérer quelque chose. C'est un drôle de joie et aussi c'est un ami, hein, un ami que je le garde à vie.
Ça fait mal au cœur justement les tensions entre Juninho et Aulas.
Oui, ah oui, beaucoup, beaucoup parce que ces deux hommes-là, j'essaie qu'ils ont beaucoup de respect l'un pour l'autre et c'est vraiment dommage que ça finisse un peu comme ça.
Et toi, comment tu faisais? Parce que on en a parlé en début d'émission, mais t'étais dans le staff de Rudy Garcia. Entre Rudy et Juni, c'était pas toujours facile. Comment toi tu faisais entre ton métier avec le coach et le directeur sportif et ancien ami et ancien coéquipier? Ça devait pas être simple de devoir te positionner parfois sur les désaccords.
Moi, je restais professionnel. Ça veut dire que y a pas de problème. Je mangeais avec Juni à midi et sur le terrain, j'ai tout donné pour Rudy que l'équipe elle marche.
D'accord. Bien sûr. Quel est l'adversaire le plus fort dans ta carrière que tu as rencontré? Pas forcément en Ligue 1, hein, même en Europe, bien sûr.
Je ne vais pas citer un seul.
Vas-y, c'est moi un top 3 des mecs qui t'ont posé plus de problèmes.
Des mecs au Saint-Etienne, dis Saint-Etienne.
Des joueurs?
Un attaquant, un 9.
Inzaghi.
R9.
Non, pas Inzaghi, R9. Mais.
À l'entraînement, non? Au Brésil, je sais pas.
À l'entraînement, déjà. Ouais. Nilma, déjà. Adem, Bernafa, Benzema, tout ça, ça faisait mal.
T'as joué contre Ronaldo à l'entraînement, non? Ou Ronaldinho avec la sélection du Brésil?
Ronaldinho, oui. Ouais. Oui, même quand il était au PSG à Paris, oui. Ah oui, il y a tellement de.
T'as pas souvenir d'un neuf qui t'a posé problème régulièrement?
Il y a Darcheville aussi.
Ah oui, bien sûr, Jean-Claude, avec les Girondins, évidemment.
Beaucoup, beaucoup de problèmes.
C'était puissant.
Ah oui, c'était dur. C'était dur parce qu'il était costaud, il était solide, il était puissant, rapide. C'était à Drogba. Il y a un paquet.
C'est magnifique, hein. Il a quoi, 30 matchs avec des champions, je pense. Tu parles de Jean-Claude Darcheville, ça me fait plaisir personnellement. Ouais,
non, mais
tu vois.
C'est beau. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, hein.
Tu l'as vu plus que les autres, tu t'en souviens.
C'est la belle Ligue 1, ça, c'est la Ligue 1 de notre jeunesse.
Quel est si tu pouvais rejouer un match, changer le scénario d'un match, ce serait lequel, tu penses?
Ah, Milan AC.
Bah oui, évidemment. Ah, oui.
Plus que le PSV?
Oui.
Ouais. Parce que tu te sens plus fort, c'est 2006
bien sûr,
justement.
Bien sûr.
C'est
moi, 2006. J'y croyais, hein, 80e, ouais, un partout, hop, c'est fini, on ferme la baraque, et voilà, on est qualifié. On rêvait tous de ça, et je pense pour moi, c'est Milan AC.
Il s'est passé quoi sur ces 10 dernières minutes, alors raconte-nous. Quand tu étais le leader, c'est quoi?
Enfin,
vous avez...
on va savoir.
Non. Vous avez mal géré.
C'est dur à expliquer.
On voulait.
Ouais, parce que déjà, quand on prend le deuxième but, c'est un dégagement du gardien. Et le ballon il traîne et Inzaghi qui marque le but, mais après on a envie de marquer ce deuxième but, on a lâché un peu, y a tout le monde qui est parti en avant et là on prend le troisième, mais je pense que il manquait encore plus de l'envie de pas prendre ce but. Ça veut dire qu'il fallait encore garder encore beaucoup plus fort que qu'on a fait.
Dis-moi Claudio, est-ce qu'en 2005 il y avait pénalty sur Nilmar?
Pour moi oui. sûrement. Je suis pas un tricheur, mais là c'est
demandé,
quand je regarde les images,
c'est sûr. Alex, ton compatriote, c'était Alex qui avait fait la faute.
Ah oui, c'était Gomez.
Ouais, Gomez.
C'était Gomez. Bien sûr qu'il y avait faute. Ouais. Ah oui, sûr.
Oui.
À 100%.
Monsieur Nielsen, si tu nous écoutes. C'était un plaisir. Alors, tu es également sur le marché. Tu veux entraîner, t'as faim, tu m'as dit tout à l'heure justement. Priorité à la France, Ligue 1, Ligue 2.
Oui.
T'es ouvert à toute proposition?
Je suis ouvert, ouais. Je préférerais bien sûr Ligue 1 ou Ligue 2. Je suis, j'ai faim. Je viens de passer à un mois et demi, deux mois au Brésil où j'ai bien mangé. J'ai passé du temps avec ma famille, mais par contre là, le foot, ça me manque. J'ai envie d'entraîner et aujourd'hui, je suis prêt. Je suis prêt à, j'ai passé toutes mes diplômes ici, je peux entraîner dans le monde entier. Et là, comme j'ai dit, aujourd'hui, je suis prêt à rebondir à quelques pas et j'espère que ce sera ici en France.
Claudio, c'était un plaisir de t'avoir.
Merci beaucoup. Merci, Claudio.
Merci d'être venu dans Génération After. On s'est régalé avec toi pendant 7h45 passé ensemble. Très bonne soirée à ça. Merci. Merci à toi. Merci également à Jean-Baptiste qui t'a accompagné.
Merci.
Ici. À très vite, hein.
Et
tu nous tiens au courant, hein. Dès que t'as un contact, tu nous dis, hein. Edouard, merci d'être venu faire un petit coucou quand même. Je sais que tu...
Salut, Edouard. Merci beaucoup.
Bon, Edouard a des problèmes de ligne apparemment. C'est pas grave. On le retrouvera très vite. Bonne soirée à toi aussi, Edouard. Dans un instant, le quiz de l'After. Merci encore, Claudio.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After avec Kevin Diaz, Jimmy Brown, Moïse Acharchour. Et j'accueille Gilbert Bribois qui nous rejoint, car c'est important
gars,
dans
bon
sa
bon
semaine. C'est un enjeu pour Gilbert aussi, pour la doublette Gilbert Walid, invaincu depuis le début de saison.
Boca River, là. C'est
dans Boca, le quiz Boca de l'After, ce sera
Boca
donc.
River, c'est Boca face contre Ferrocarril OST.
Alors, on a décidé.
Dernier de Ligue 2.
On a décidé de renforcer cette équipe chancelante battue chaque semaine.
Je sais pas où vous avez avancé ça, vous mettez tête à chaque fois quand je suis là. Mais allons-y,
je vais prendre Joker pour gagner.
Jimmy et Kevin.
Les gars, on est quand même une émission avec des podcasts.
Vous êtes renforcés par une pointure en matière de quiz, Daniel Riolo, évidemment.
Petite pointure, c'est du 37.
Non, c'est okay, parti, jingle quiz.
RMC, le quiz de l'After.
Avec Jérôme Thomas. Salut Jérôme.
Salut Nico, salut à tous.
Salut Jérôme. On accueille les deux candidats qui nous rejoignent et qui vont choisir, devoir choisir la bonne équipe pour espérer remporter un bomber shot.
Bien sûr.
La marque new-yorkaise. Hugo et Riyad, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Salut. Bonsoir.
Alors messieurs, question de rapidité, celui qui a la bonne réponse choisit son équipe pour espérer l'emporter. Soyez pertinents, je pense que celui qui va avoir la bonne réponse choisira la team Gilbert Walid.
Ah bien sûr, bien
très
bien
logiquement.
Encore une question sur Bordeaux.
Question très simple. Dans quel club anglais a joué Claudio Cacciapa pendant deux saisons?
Oh, c'est pas évident. Ça.
Allez-y, hein, faites des propositions.
Bon,
non.
West Ham.
Non, c'est un peu plus haut.
Ils étaient en Ligue des Champions cette année.
Liverpool.
Dans la poule du PSG.
Arsenal.
Non, allez-y.
Jean Noir
et Blanc. Newcastle. Qui a dit Newcastle en premier?
Riyad.
Riyad, tu choisis quelle équipe?
Riyad, viens chez nous.
Walid.
Les casquettes, elles sont top. Riyad, tu vas voir. Essayez de prendre un petit t-shirt Scott parce que là, il fait chaud là sur les prochaines semaines.
Là, c'est un bomber, t'as raison. C'est parti, première question et premier quiz.
Et premier quiz, surtout, on y va. Allez. On y va, premier quiz.
Allez, ça vient avec le jingle.
Ça vient pas, c'est pas grave. Quiz chaland ou nonchalant, avez-vous été attentif à l'actu foot des derniers jours? On commence. Dans les 5 grands championnats, tout le monde joue. Question de rapidité. Dans les 5 grands championnats, avant Leverkusen, quelle est la dernière équipe à avoir terminé son championnat sans aucune défaite?
Arsenal?
Non.
Preston North End?
Non.
Dans les 5 grands championnats?
Dans les 5 grands championnats. La Juve?
Bien, Kéké. Allez, 1-0. Ça prend la tête déjà.
Tu as la saison, Kevin, la première bonne réponse de Kevin en 6 mois.
Moi, la pression qui sur moi comme.
T'as une fulgurance. Là.
Allez, c'est parti.
Ça compte pas, mais t'as la saison.
La saison.
Non, 2011-2012. C'est un coup de chance. 23 victoires, 15 défaites. 15 nuls, aucune défaite.
Allez, 1-0.
L'Atalanta Bergame a remporté sa première Coupe d'Europe hier.
Ouais, 63.
Sur le logo du club, il y a le profil d'une femme. Oui. Comment s'appelle-t-elle?
La déesse Atalante.
Atalante. Et non pas Atlante.
On a dit Atalante.
2-0.
En français, moi. Qui a dit Atalante?
2-0.
On a compris l'arbitrage, on a tout compris.
2-0, on discute pas. C'est parti.
D'ailleurs, c'est une déesse grecque, j'avais regardé ça.
Oui, on a compris l'arbitrage. On a compris. Tout le monde joue. Ce samedi, il y a un match très attendu.
Oui, PSG Lyon.
Panathinaikos, Salonné. Qui sera l'arbitre?
Frappard, c'est moi. Ouais, enchaîne, 3-0. Enchaîne, vite. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps,
frère. Je vous la montre tranquille.
Attends.
Non, il n'y a pas. Attends, on y va, on enchaîne.
Deux secondes. Bon, je vous la montre.
Duel.
Il est bon.
Duel Keke Diaz, Gilbert Bribois. Vous avez écouté un petit son.
Gilbert, il est là?
Je ne veux pas le nom de celui qui parle, mais le nom de la personne dont il parle. Ok?
Ok.
C'est parti.
Oui, je me rapproche de lui, mais je ne vais pas le dépasser, ça c'est sûr.
C'est facile.
Mbappé.
Non.
Juninho.
Dante.
Ici. C'est moi. Dante qui a parlé, mais il parle de qui?
Hilton. Merci.
4-0, c'est terrible. Non mais c'est une humiliation là. Il reste 6 minutes, vous avez le temps.
Allez Gilbert, c'est maintenant.
4-0 pour l'affaire Jimmy et Kevin et Hugo.
Duel Walid, Jimmy. Qui a dit ça il y a quelques jours? Il me faut son nom.
Buvez deux canons et puis vous rentrez à la maison et demain matin il y a entraînement.
Buvez deux canons et vous rentrez à la maison demain matin il y a entraînement. C'était avant-hier.
Brendan Chardonnay.
avant-hier. Le match
avant-hier.
Santini. Santini, le stage de Rodez. Santini.
Santini.
C'est bon, le stage de Rodez.
5-0.
5-0, la Manita.
C'est une humiliation.
Ah ouais, non, mais là, c'est humiliation.
La Mérielle, les casquettes, elles sont top aussi, t'inquiète pas.
Allez, vas-y.
Eh bien, Riyad, que les auditeurs. Riyad Hugo, qui a dit ça il y a quelques jours?
C'est effectivement un monumental échec pour le club.
L'étang.
Non. Un peu plus au sud.
Un peu plus à l'ouest.
Et à l'ouest. Allez.
Un club à l'ouest.
Échec monumental.
Le président de Lorient.
Comment il s'appelle?
Ferry.
Oui.
C'est qui ça?
Riyad.
C'est Riyad.
Riyad. Allez Riyad.
Bravo Riyad.
C'est toi qui nous a remis dedans. C'est toi qui nous a remis dedans, Riyad. C'est toi qui nous a remis dedans.
La remontada est partie.
Tout le monde.
Qui a dit ça? Qui a dit ça il y a quelques jours et surtout de qui?
Attends, c'est quoi, la question?
C'est les deux, c'est qui et de qui parle? De qui il parle? Juste, on va
ça fera deux points.
Qui a dit ça il y a quelques jours?
Texas. Il parle de Pierre Sage pour le deuxième point.
Il y avait un point. 5-2.
Dernière question. 5-2. Ça reste 4 minutes, vous êtes bien.
Dernière question de ce quiz. Qui parle? Cette personne parle de lui. Donc, à la troisième personne, on y va.
Aujourd'hui, c'est un Kenny abouti. Je pense aujourd'hui, la phase finale de Kenny, elle est bien, mais elle n'est pas finie.
Kenny Lala.
Bravo
Kenny Delon.
Kenny Delon,
là, c'est fort.
Kenny, il faut écouter.
Là, c'est le coup derrière la tête.
Après la victoire de Brest,
6-2. Oh, non,
en plus, Gilbert, quand même.
On y va, deuxième quiz, c'est parti, le quiz à la con.
Gilbert, il est là ou pas?
Avec les cons qu'il y a, là. Parce qu'il y a des cons.
Il y a 6-2, il n'y a pas 6-3.
Il y a un rack de 6-2.
Vous aviez un invité tout de suite, Claudio Cachapa, mais son vrai nom, tout le monde le connaît. Walid, n'est-ce pas? Claudio Roberto da Silva.
D'accord, oui.
Je vous donne un nom complet brésilien. Vous devez me trouver le joueur, l'ancien brésilien lyonnais. Okay. Et lyonnais.
Ouais.
On n'est pas. On
c'est, duel que Kéké, c'est que des lyonnais.
Duel Kevin Walid. Que des lyonnais. Okay. Okay. Antonio Augusto Ribeiro Reis Junior.
Fred.
Non.
Chris.
Julinho.
Ouais, c'est bon.
Gilbert Keke Diaz. Je veux
Gilbert Jimmy
Lucas Tolentino Coelho de Lima.
Nilmar.
Non.
Lucas Fred. Paqueta.
Oui. Paqueta. Bonne réponse ici. Merci Flo.
Mais c'est Flo qui a dit. Mais
c'est pas rien.
Mais c'est plus. Vous avez aussi un souffleur là, Daniel.
Il a rien soufflé.
Allez, on enchaîne. Point
sur la balance.
Silence s'il vous plaît, on enchaîne.
Personne ici, personne ne parle. Un duel auditeur.
Hugo Riyad.
Allez, Riyad, c'est maintenant.
C'est très facile.
6-5,
Cristiano Marquez Gomez.
Allez, Riyad.
Allez, Hugo.
Riyad. Raphaël Pereira da Silva.
Raphaël.
Voilà,
on enchaîne. Jimmy, vamos.
8-4, c'est ça le quiz?
Allez, il reste 2 minutes.
Troisième quiz, on y va pour le quiz after.
Tu as raconté de la merde de A à Z.
C'est le tour de Frédéric. C'est le tour de Frédéric.
Depuis 3 semaines, vous pouvez écouter les meilleurs moments, les meilleures archives de l'after dans une nouvelle chaîne de podcast qui s'appelle Les Archives Mythiques de l'After.
Et on conseille celui de France-Irlande qui est exceptionnel.
Vraiment. Et 2009. Voilà, mis en ligne hier, c'était en novembre 2009. Je vais vous demander, alors cette archive est sur le podcast depuis 15 jours, c'est l'archive de la remontada PSG-Barça 6-1. Je veux que vous me donniez chacun votre tour un des 28 joueurs ayant participé à ce match. Donc forcément, on soit de 22 pour les titulaires et 3 remplaçants de chaque côté.
Bon les gars, on y va, on perd pas de temps. Voilà,
28.
Ça va aller vite là. Allez, c'est un ping-pong.
C'est parti, sans les auditeurs.
Hein. Sans les auditeurs. Ouais. Walid.
Thiago Silva,
c'est bon.
Neymar,
c'est bon.
Marquinhos,
c'est bon.
Kevin Trapp.
Trapp, c'est bon.
Neymar.
Déjà dit.
C'est fini.
Merci Riyad, merci Hugo. Riyad, tu repars quand même avec une casquette shot dans un instant. L'after avec Gilbert, Daniel et Flo. Gilbert va parler apparemment.
Attends, mais Nico,
il va parler.
Est-ce que c'est bon, ils ont perdu Gilbert et Walid?
Ça y est, c'est
bon.
Fini. C'est plus, tu vas m'accuser, c'est terminé.
C'est une grosse raclée là quand même.
Ah, c'est terrible, c'est terrible. 10-4. Allez, l'after dans un instant. Bonne soirée à tous sur RMC.
Génération After.